France Culture.
Et on fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et nous serons dès le début de ce journal en direct du Palais de Justice à Paris où doit débuter le procès en appel de Marine Le Pen, la patronne de l'extrême droite. Y joue son éligibilité pour la prochaine présidentielle et plus généralement son avenir politique. On reviendra par ailleurs sur l'assassinat hier de l'un des noms les plus emblématiques du nationalisme sur l'île de Beauté, Alain Orseny, militant de la première heure et dont le clan est également associé aux banditisme. Corse, on parlera des dangers des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents. Avec notre invité, on s'intéressera à la crise politique et économique à l'œuvre en Nouvelle-Calédonie. Enfin, l'actualité à l'étranger reste marquée par la violence de la répression des manifestations en Iran et les menaces américaines à destination de Téhéran, mais pas seulement. Moins d'un an après sa condamnation à 2 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité, le destin de Marine Le Pen se retrouve donc à nouveau suspendu à la justice. Son procès en appel doit s'ouvrir dans moins d'une heure maintenant. Rappelons que la chef de file des députés du Rassemblement National est jugée en appel dans l'affaire dite des assistants parlementaires du FN au Parlement européen. Et les faits reprochés en première instance sont aussi graves qu'étayés, délits de détournement de fonds publics. Autant dire que celle qui n'a sans doute jamais touché d'aussi près son rêve de présidentiel ne s'était par ailleurs jamais approché aussi dangereusement de l'abîme politique. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du Palais de Justice. Alors le procès est prévu théoriquement pour durer jusqu'au 11 février. Et la sentence ne sera pas connue tout de suite puisque l'arrêt des 3 juges n'est pas attendu avant le mois de juin. En attendant, celle qui n'a pas abandonné l'espoir d'être relaxée a semble-t-il opté, Anne, pour un changement de stratégie de défense.
J'espère pouvoir convaincre les magistrats de mon innocence, a rappelé Marine Le Pen hier en marge des vœux à la presse de Jordan Bardella. Interrogée sur son axe de défense, elle a simplement répondu « Dire la vérité, c'est la stratégie qui est la mienne, comme je l'ai fait en première instance, en espérant être mieux entendue. » On se souvient qu'en 2024, Marine Le Pen avait joué la carte de la politisation pour se défendre, se considérant comme la bête noire du Parlement européen. Assistée pour ce procès par une nouvelle avocate, Sandra Chirac-Kolarik, et par son conseil historique, Rodolphe Bosselu, elle pourrait davantage insister sur sa non-intentionnalité de commettre les faits qui lui sont reprochés. Signe de ce changement, le député RN Jean-Philippe Tanguy a indiqué ce matin sur RTL qu'une consigne de sobriété avait été adressée à sa garde rapprochée. Il n'y a pas à médiatiser outre mesure cette affaire. Nous, en tant que parlementaires, on a beaucoup de dossiers à l'Assemblée nationale. Si Marine Le Pen n'a pas abandonné l'espoir d'être relaxée, elle pourrait tout de même concourir à la présidentielle de 2027 si elle était déclarée coupable, mais à 2 conditions. Qu'une éventuelle peine d'inéligibilité soit inférieure à 2 ans et que les magistrats renoncent à la condamner au port d'un bracelet électronique perçu comme incompatible avec la possibilité de mener une campagne. Mais elle l'a déjà indiqué. La seule décision de la Cour d'appel déterminera son avenir. Elle n'attendra pas une décision de la Cour de cassation. Le jugement de la Cour d'appel est attendu dans quelques mois, avant l'été prochain.
Merci Anne Fauquemberg en direct du Palais de Justice ainsi qu'à Gilles Gallinaro pour les moyens techniques.
Même dans une île pourtant rompue aux scènes de crimes parmi les plus atroces, celle d'hier apparaît tout particulièrement cruelle.
Il était environ 16h30 dans le petit village de Véro en Corse, non loin d'Ajaccio. Le prêtre venait à peine d'achever son oraison funèbre lorsqu'Alain Orseny, 71 ans, venu assister à l'enterrement de sa mère, s'effondre à quelques mètres de la terre censée recouvrir le cercueil de la défunte, atteint par le tir d'un sniper embusqué à près de 300 mètres, une seule balle en plein thorax. L'ex-leader nationaliste meurt sur le coup, un assassinat d'autant plus stupéfiant d'ailleurs qu'un peu plus tôt seulement à Bastia s'était tenue la traditionnelle audience de rentrée solennelle de la Cour d'appel, l'occasion de dresser la liste des principaux défis à relever pour l'institution judiciaire de Lille, à commencer justement par la criminalité organisée. Estelle Camerer, bonjour.
Bonjour.
La mort brutale hier d'Alain Orseny, figure historique du nationalisme corse reconverti dans les affaire vient ainsi mettre un point final à une trajectoire familiale marquée par la violence, le meurtre de son frère tout d'abord, mais aussi de son avocat. Lui-même avait été la cible d'un projet d'assassinat déjoué, ainsi que son fils, présenté par la police comme une personnalité saillante du banditisme corse. Une enquête a donc été ouverte, Estelle, pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs.
Et oui, c'est le nouveau parquet national anticriminalité organisée, le PNACO, qui s'est co-saisi de l'enquête avec la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Marseille. C'est le premier dossier du PNACO, tout juste installé depuis le 5 janvier. Un magistrat du parquet de Marseille et un magistrat du PNACO se sont rendus sur les lieux ce matin. Un périmètre de sécurité a été installé autour du village de Véraud. Selon les premières informations, le tir mortel a été opéré à longue distance, comme vous l'avez dit. Et à ce stade, les traces d'un seul tir ont été retrouvées. Les autorités sont dans l'attente des examens balistiques et de l'autopsie. Le procureur d'Ajaccio, Nicolas Sept, estime qu'il est trop tôt pour privilégier une piste. Mais une source policière locale relève des similitudes, notamment les tirs à longue distance avec d'autres homicides ayant visé l'entourage de Guy Orsoni, son fils, détenu depuis mai dernier et condamné à 13 ans de prison dans un dossier criminel. Une partie de la police locale suggère qu'Alain Orsoni a donc été tué pour les affaires de son fils. Camarades nationalistes et religieux ont dénoncé un crime innommable, mais du côté politique et des collectifs anti-mafia, quasi silence radio à ce stade, malgré une mobilisation historique il y a 3 mois pour dénoncer le poids des bandes criminelles sur l'île.
Merci Estelle Caméraire.
La semaine de tous les dangers.
Dans une séquence budgétaire décidément à rallonge, combien de fois aura-t-on prédit donc ce moment décisif pour l'exécutif, sans majorité menacée par la censure? Cet après-midi, les députés qui avaient rejeté à la quasi-unanimité le projet de loi de finances en première lecture seront à nouveau appelés à examiner le texte dans l'hémicycle. Or, son rejet en commission, pas plus tard que la semaine dernière, a encore renforcé les interrogations. Faut-il laisser les débats une fois de plus s'éterniser ou bien les écourter sans tarder? Plusieurs responsables pressent aujourd'hui le Premier ministre de recourir au 49-3, sauf que pour Sébastien Lecornu, ce serait non seulement prendre le risque d'être renversé, mais plus encore, sans doute, cela reviendrait à se dédire, puisqu'il s'était engagé à ne pas utiliser cette arme constitutionnelle pour leur face à un Parlement éclaté. Et malgré quelques gestes esquissés par le gouvernement, aucun accord global ne semble encore en mesure de se dégager.
Et en attendant, le climat ambiant n'est pas non plus véritablement propre à la plus grande sérénité.
Non, depuis ce matin, les agriculteurs en colère sont de retour dans la capitale avec un cortège composé de quelques 350 tracteurs positionnés notamment aux abords de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, au Havre, premier port pour le trafic de conteneurs là-bas, des filtrages ont été mis en place. À La Rochelle, le dépôt pétrolier est lui toujours bloqué. En revanche, le barrage emblématique de la 64 a été levé. Tous protestent, vous le savez, contre l'accord de libre-échange du Mercosur, dont la ratification définitive dépend encore d'un vote final qui s'annonce serré au Parlement européen. La FNSEA sera reçue à Matignon au début d'après-midi. Et puis j'ajoute que pour la toute première fois depuis que se tient l'événement à Paris, aucun bovin ne sera présent cette année au Salon de l'Agriculture en raison de la dermatose nodulaire, dont la gestion de l'épizootie par le gouvernement figure aussi parmi les autres motifs de la colère paysanne.
L'usage des réseaux sociaux nuit à la santé mentale des adolescents et en particulier celle des filles.
C'est ce qui ressort d'une étude publiée ce matin par l'ANSES, l'Agence française de sécurité sanitaire, fruit de 5 années de travaux d'un comité d'experts plus pluridisciplinaire. Alors cet avis n'a rien de très surprenant. En revanche, Cécile Le Carvazeau, il semble d'autant plus opportun à l'heure où plusieurs textes législatifs visant à interdire les réseaux pour les moins de 15 ans sont en préparation, et notamment faute de pouvoir forcer les plateformes à respecter la loi.
Oui, effectivement, l'avis de l'ANSES qui a épluché 1000 articles scientifiques parus entre 2011 et 2021 n'a rien de très surprenant et répète finalement les rapports européens déjà parus sur le sujet. Plus de 97% des jeunes se connectent à Internet chaque jour et 8 sur 10 au moins une fois par heure. Ils sont littéralement happés par des plateformes conçues, et c'est leur modèle économique, pour capter leur attention et leurs données afin de pouvoir les vendre. Ces enfants sont donc victimes des interfaces trompeuses, de la personnalisation des contenus et d'algorithmes qui les enferment dans des bulles de désinformation et de cyberharcèlement. Cela nuit à leur sommeil, à leur estime personnelle, surtout pour les filles et les personnes LGBTQIA+, et bien sûr à leur santé physique et psychique, d'où la nécessité de les protéger. Pourtant, ce rapport ne veut pas interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes. Il veut en changer la conception. Or, l'entreprise n'a rien de simple et l'Union européenne planche sur le sujet depuis des années. Le Digital Service Act, adopté à l'unanimité des États membres, est en vigueur depuis février 2024. Il prévoit que les plateformes ont normalement l'obligation de mettre en place un contrôle d'âge des utilisateurs avec une atténuation des contenus. Mais cette règle est peu appliquée en Europe. La Commission européenne tente donc de mettre en place une application permettant la vérification de l'âge des utilisateurs sur les réseaux, et le Parlement européen, dans un rapport de décembre dernier, voudrait, lui, rendre responsables juridiquement les cadres supérieurs de ces plateformes pour non-vérification des contenus diffusés à des mineurs. Mais ces cadres sont à 90% aux États-Unis et en Chine, et donc protégés par leur gouvernement. Alors l'ANSES fait une proposition qui vaut ce qu'elle vaut, que les adultes parlent avec leurs enfants de ce qu'ils voient et font sur les réseaux sociaux, sinon ce sont les compagnons IA qui vont le faire avec eux.
Il y aura une chaise vide vendredi à Paris pour la reprise des discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Des discussions à l'initiative du chef de l'État, lequel a invité indépendantistes et loyalistes à l'Élysée, sauf que le Front de Libération Nationale Kanak a d'ores et déjà prévenu ce matin qu'il ne ferait pas le déplacement. Pourquoi ? Le mouvement ne veut plus entendre parler du projet d'accord dit de Bougival, finalisé l'été dernier en région parisienne. Or, le FLNKS dit craindre que cette réunion ne serve justement que de chambre d'enregistrement à ce texte qu'il rejette. Les précisions depuis Nouméa de la correspondante de RFI pour France Culture, Charlotte Manneville.
On ne les y reprendra pas à deux fois. Les indépendantistes du FLNKS n'ont pas du tout apprécié la pression mise sur leurs épaules par l'État après leur rejet de l'accord de Bougival. Alors si les discussions doivent reprendre, ce doit être à Nouméa, estime Christian Théin, le président du FLNKS.
On a un réel souci avec la France. Paris ne veut rien entendre. Il ne connaît que le rapport de force en permanence. Nous, on veut discuter. Mais pas à n'importe quel prix. Pas en sacrifiant les intérêts du peuple kanak, avec tous les verrous insurmontables dans lesquels ils ont logé Bougival.
Les verrous dont parle Christian Théin, ce sont les conditions d'accès à l'indépendance fixées par Bougival, particulièrement compliquées. Or, le FLNKS n'est pas pressé de négocier, contrairement aux non-indépendantistes, car sans accord, pas de réforme constitutionnelle et donc pas d'ouverture du corps électoral aux prochaines élections prévues en juin, une priorité pour les non-indépendantistes. Philippe Dunoyer, membre du parti non-indépendantiste de centre-droit Calédonie Ensemble.
Tout le monde sait qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y a un problème politique d'absence de majorité des 3/5 à Paris. Et dans cet accord de Bougival, dans cette loi constitutionnelle, figure le sujet du corps électoral.
Les non-indépendantistes radicaux veulent coûte que le corps électoral aux élections provinciales soit ouvert au plus grand nombre. Ils entendent déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Et pour continuer d'évoquer les tenants et aboutissants de ce blocage politique sur l'avenir institutionnel de l'archipel, invité à présent de la rédaction de Laurent Chatenay, ancien élu de la droite anti-indépendantiste au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je précise par ailleurs que vous avez également présidé le conseil d'administration de la société d'électricité néo-calédonienne Enercal. On vient de l'entendre, donc le FLNKS ne participera pas à la rencontre prévue vendredi à l'Élysée, ce qui réduit encore un peu plus les chances de voir l'accord de Bougival sortir de l'aunière. Faut-il en déduire que le blocage politique sur l'archipel est aujourd'hui inextricable ?
Alors, il est inextricable, peut-être pas, ça dépend de l'État français. En fait, l'État, depuis un certain temps, se caractérise par une rupture délibérée de loyauté de ses obligations à l'égard du processus de décolonisation et de paix. Il y a eu un certain nombre d'actes depuis les trois référendums qui sont très caractéristiques. Déjà, le troisième référendum, juste post-Covid, que le FLNKS avait souhaité repousser parce qu'il était en deuil, que ce deuil lié à justement à une épidémie, bah, ça leur rappelait des souvenirs de la décolonisation, où en fait la population kanak a été décimée par des maladies importées par la colonisation. Et donc l'État a refusé de le faire. Il est passé en force. Tout de suite après, il a eu une lecture très juridique du sujet, en déclarant que la Nouvelle-Calédonie est restée définitivement française. Dans la foulée de ça, il a tenté une modification du corps électoral, donc qui était un acte sacré de l'accord de Nouméa. Parce que en fait, il avait compris qu'il y avait une trajectoire électorale depuis le premier référendum qui était en faveur des indépendantistes, et d'ailleurs qui a été confirmé au dernier scrutin qui était les législatives en Nouvelle-Calédonie, où avec un corps électoral élargi à la population métropolitaine qui vit en Nouvelle-Calédonie, la différence était de 10 000 voix favorables aux indépendantistes. Donc si je pense qu'il est, c'est la stratégie de l'État, c'est il a compris que cette majorité était menacée et que sans modification du corps électoral, ça ne passerait plus.
Alors, il se trouve que parmi les mesures qui dépendent de l'aboutissement justement de ces négociations politiques en cours figure la mise en place d'un plan de relance pour l'économie censé répondre aux conséquences matérielles des soulèvements de 2024. Que sait-on de ce plan de relance et où en est-on aujourd'hui de la reconstruction ?
Alors, pour l'instant, c'est un petit peu au point mort, parce que le plan de relance, il est effectivement lié aux discussions budgétaires de l'État français, ça c'est la première chose. L'autre chose, ça paraît quand même incongru aujourd'hui d'aller de l'avant avec un programme d'investissement en Nouvelle-Calédonie sans avoir de garantie de stabilité politique. Je veux dire, là, ce qu'ont mis en exergue les événements de 2024, c'est qu'il suffisait de peu de choses pour déstabiliser complètement le pays et le paralyser et détruire la confiance. Sans confiance économique, il n'y a pas de sans paix, il n'y a pas de confiance économique, et sans confiance économique, il n'y a pas de développement durable. Et c'est bien la situation malheureusement dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et on a l'impression qu'en fait, on a affaire à toute une série de rustines qui sont destinées finalement à gagner du temps à court terme, mais qui ne résolvent en rien les problématiques de fond.
Et concrètement, justement, à quelles difficultés les personnes qui ont subi ces dégâts sont confrontées aujourd'hui ?
Ah ben aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Aujourd'hui, clairement, il y a des gens qui ont du mal à manger. On voit aujourd'hui des gens dans la population mélanésienne, dans les quartiers nord de Nouméa, des gens qui sont dans un état de précarité qui est exacerbé par les politiques de la province sud, hein, qui a coupé un certain nombre d'aides sociales et qui touche directement ces populations-là. Et aujourd'hui, les gens ont faim.
C'est bien compris. Merci Laurent Chatenay, donc ancien élu de droite anti-indépendantiste au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Midi et 46 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Quand le courage populaire défile à violence d'État au prix parfois de la vie, deux semaines après le début de la contestation populaire en Iran, les morts se comptent désormais par centaines, plus de 600, y compris d'ailleurs dans des villes du sud-ouest du pays, habituellement plus loyal au régime. Ce matin, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit horrifié. De son côté, le président américain a dit passer en revue toutes les options face à la répression violente menée par le régime de Téhéran. En l'occurrence, Donald Trump dispose d'un éventail de possibilités plus ou moins risquées pour intervenir en Iran, et son choix devrait surtout dépendre en réalité de l'objectif qu'il cherche à atteindre. À ce titre d'ailleurs, et après l'opération déjà menée par l'armée américaine au Venezuela contre sa production pétrolière à destination essentiellement de la Chine, Pékin craint d'être à nouveau directement visé par la politique interventionniste de Washington, s'agissant cette fois-ci de sa dépendance énergétique à l'Iran, d'où la réaction courroucée venue ce matin du géant asiatique qui n'entend pas se soumettre aux menaces américaines. Les précisions depuis Pékin de Sébastien Berriot.
Pour comprendre la fermeté exprimée ce matin par la Chine, il faut se rendre dans la province côtière du Shandong, face au Japon, où se trouvent là-bas les principales raffineries qui reçoivent le pétrole iranien, 1 million de barils par jour. Pour contourner les sanctions internationales imposées à Téhéran, la Chine utilise de toutes petites structures privées et indépendantes, et surtout déconnectées du système financier international. Dans un contexte économique déjà difficile pour la Chine, Pékin a besoin du pétrole iranien pour faire tourner son économie, un pétrole qui est de bonne qualité d'abord, mais qui est surtout moins cher, et cela permet donc à la Chine de faire chaque année des milliards d'euros d'économies. Pas question donc, malgré les menaces de droits de douane de Donald Trump, de renoncer à ce système avantageux. Il faut dire que les déclarations du président américain sur ces sujets commerciaux ne font plus vraiment peur ici en Chine. On a vu qu'après des mois de bras de fer l'année dernière, Donald Trump a finalement fait profil bas en acceptant un accord commercial. À Pékin, on pense que les États-Unis ne prendront pas le risque de compromettre cette trêve, même si la Chine continue de faire des affaires avec l'Iran.
Et puis j'ajoute que c'est encore dans ce contexte troublé que doit s'ouvrir aujourd'hui à Paris le procès pour apologie du terrorisme de l'iranienne Mahdieh Esfandiari, possible monnaie d'échange avec Téhéran contre les Français Cécile Kohler et Jacques Paris. Le procès au tribunal correctionnel de Paris est prévu pour durer 4 jours. Enfin, c'est aujourd'hui que le parquet sud-coréen doit lui livrer ses réquisitions à l'encontre de l'ancien président Yoon Suk-yeol, lequel encourt la peine de mort pour avoir tenté d'instaurer instaurer la loi martiale. C'était en décembre 2024. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec le retour de belles éclaircies sur les trois quarts du pays à l'exception de la pointe bretonne et des côtes de la Manche où circule un front pluvieux. Quant aux températures, elles seront comprises entre 8 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.